Le show du matin week-end.
Salut tout le monde!
Avec
Salut.
Carbo
Radio X. Il revisite l'histoire.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La chronique de Max Power.
Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Ah ben là, on commence à tomber dans une série d'années que j'apprécie. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas venu au monde dans une bonne époque. J'aurais dû venir au monde là, dans les années fin 40, pour avoir, aujourd'hui avoir 80, mais les années 50. Ouais. Et pour mieux nous en expliquer, dans son concept unique, Max Power, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Comment ça fait se garder jeune de même dehors une demi-heure de temps?
Ben, pas une demi-heure, mais... Donc, la technologie a ses limites avec le froid. Là,
faut oui, voir, là. Faut croire certains.
Non, ce qui est plus frustrant, c'est que je rentrais le code, puis ça disait tu sais, c'était le bon
code.
Code
accepté.
Là, mais ça rouvrait pas.
Ça rouvrait pas, hein. Puis ce qui est plus frustrant, c'est que moi, tu me dis, je suis dehors, puis je t'ai pogné ça au micro. Hey, en passant, salutations à Jacqueline Deschaines qui fait dire salutations à Joanne de la Naudière. Voilà, le message est fait. Le concept de la chronique, Max.
Concept de la chronique, ben on cible une année en particulier. On parle des événements qui ont marqué l'économie, la société, n'importe quoi. Mais dans le fond, c'est une excuse pour parler de char.
Ben oui.
Alors, cette année, aujourd'hui, c'est 1955. Alors, le rock and roll commence à prendre son envol pour de vrai. On a entendu Bill Haley, Rock Around the Clock, qui était la chanson la plus tournée en 1955. Mais il s'est passé beaucoup d'affaires dans le monde. Il faut dire qu'on est à peine 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un des événements les plus importants de 1955, c'est la signature du pacte de Varsovie, un nouveau bloc militaire. Alors, l'Union soviétique et plusieurs pays d'Europe de l'Est signent le pacte de Varsovie. Ce traité n'est pas seulement une alliance militaire, c'est la réponse directe de Moscou à l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN. L'OTAN, qu'on le sait, représente la plupart des pays occidentaux. C'est pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, l'Allemagne de l'Ouest, qui était alignée évidemment avec l'Ouest, entre dans l'OTAN. Et l'URSS, avec quelques membres fondateurs, là, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, font front commun. Ce qui a comme conséquence que ça divise l'Europe en deux. Deux blocs carrément antagonistes. Ça structure durablement la guerre froide jusqu'à la fin des années 80. Ça renforce l'influence soviétique sur l'Europe de l'Est. Alors, ça marquait littéralement un durcissement de la bipolarisation mondiale. Une chose qui est importante, on a parlé là, en 1954 de la découverte du vaccin contre la poliomyélite, mais en 1955... C'est le vaccin mis au point par le docteur Saul qui est déclaré sûr et efficace après avoir été essayé sur des millions d'enfants. Il commence immédiatement à être distribué à grande échelle. Alors, l'impact que ça a eu, on a vu une chute majeure des nombres de cas. Ça a été un soulagement incroyable pour des millions de familles. Puis ça a été le début d'une campagne mondiale qui va mener presque à l'éradication de la maladie. De fait, en 1987, là, il y avait à peu près 150 000 nouveaux cas dans le monde. Puis là, on est à moins de 10 cas. Là, c'est dans des zones qui sont affectées par la guerre où on ne peut pas faire les vaccinations comme on veut.
Est-ce que c'est ça qui laissait une cicatrice sur le bras des gens?
Je me souviens pas.
Tout le monde avait une cicatrice sur le bras suite à un vaccin.
Non, je pense pas que ce soit cela, parce que le vaccin du Dr Saul, c'était une piqûre, là.
Ouais.
Mais au début des années 60, il y a le Dr Sabin de l'Institut Pasteur qui avait sorti une version en gouttelettes.
Okay.
Les deux gouttes qu'on donne aux enfants. C'est ça qui est utilisé aujourd'hui, mais ça se peut qu'à l'époque, là, ce soit ça.
Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais tout le monde avait une espèce de cicatrice sur le bras.
Oui, c'est ça.
L'as-tu, toi?
Oh, probablement. Je ne me regarde pas les
bras. Il y a qui dit qu'il en a une, mais sur le bout. Mais ça, c'est peut-être d'autres choses.
C'est à ce jour un des plus grands succès de la médecine moderne. Puis c'est un vaccin qui n'est pas breveté.
Non.
Puis il y a quelqu'un qui avait demandé au docteur Saul pourquoi il n'avait pas fait breveter le vaccin puis faire des millions avec ça. Il se garde, ce sera ma contribution à l'avancement de l'humanité.
Ben c'est bon, c'est tout en or, ça.
Définitivement. L'explosion du rock and roll. Alors, on a parlé tantôt, ça passe d'un phénomène émergent à une véritable révolution culturelle. Des artistes comme Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, Chubby Checker ou Little Richard qui ont bouleversé les codes musicaux et sociaux. Alors, le rock devient littéralement l'identité sonore d'une nouvelle génération. Il influence la mode, les comportements, puis même les mouvements sociaux. Puis, il rouvre la voie à toute la culture pop moderne. Alors, c'est le début d'un séisme culturel mondial. Également en 1955, après la fin de la guerre d'Indochine, ça c'est la guerre entre 1946 et 1954 où la France voulait récupérer son influence dans ce coin-là. L'Indochine, c'était à l'époque le Vietnam, Laos puis le Cambodge. Alors en 1954, la France perd cette guerre-là, une autre des nombreuses guerres que la France perdues. Alors c'est... Après la fin de la guerre d'Indochine, le Vietnam est officiellement divisé entre un nord communiste puis un sud soutenu par les États-Unis. Ça a marqué le début concret de ce qui deviendra la guerre du Vietnam, une autre guerre qui a été perdue par les Américains en passant.
Ben oui.
Alors, ça a duré de 1955 à 1975. Les enjeux clés, ben, c'était un proxy war, là, conflit idéologique entre communisme et socialiste. Les États-Unis se sont impliqués de façon croissante jusqu'à la culmination en 1975. C'est le début d'une guerre longue, coûteuse et traumatisante. Alors, ça a posé les fondations d'un conflit qui a marqué durablement la politique mondiale jusqu'en 1975. Les premiers essais de la télévision en couleur.
Oh, wow!
Ça, pour les jeunes, la télévision en couleur, c'est comme un gros iPhone que toute la famille pouvait écouter en même temps. Alors, une année importante pour la technologie domestique, les premières diffusions publiques en couleur apparaissent. Publiques parce qu'il n'y a personne qui avait moyen de se payer une télé couleur.
Non, c'est ça.
Alors, on allait regarder ça dans les showrooms des vendeurs d'électronique. Alors, c'est révolutionnaire parce que la télévision est devenue un média encore plus attractif. Ça a transformé les habitudes familiales. Au lieu de se ramasser là, sur le bord de la radio après souper pour écouter les games du Canadien, on pouvait regarder de quoi ça avait l'air. Puis, ça a ouvert la voie à l'industrie télévisuelle mondiale. C'était le début d'une nouvelle ère médiatique. Mais, dans le fond, les événements majeurs qui ont marqué 55, c'est Chevrolet qui introduit son légendaire V8 Small Block.
Les premiers Small Block.
Oui, le lancement du V8 265 pouces cubes de Chevrolet. C'était un tournant majeur. Alors, ce moteur-là a équipé la Chevrolet Bel Air 55 puis la Corvette, qui sont devenus... Ben c'est de fait ce qui a donné un peu de sérieux à la Corvette, là, parce que la T-Bird, en 55, est partie l'autre... avec le V8. Oui,
c'est ça.
Le Bel Air 55, ça, c'était... L'avantage de ce moteur-là, il était léger, puissant, facilement modifiable, puis il est devenu le moteur le plus produit de l'histoire automobile.
Ils en ont fait beaucoup, hein?
Ah ouais, c'est ça. Il a marqué le début de la culture hot rod moderne qui a redéfini les standards de performance accessibles. Également Chrysler qui a fait de l'Impérial une marque à part. Parce qu'avant, tu sais, c'était un modèle plus
luxueux.
Plus luxueux. Alors, ils ont dit, ben regarde, on va faire une marque à part pour compétitionner avec Cadillac puis Lincoln, qui étaient les marques de luxe de GM puis de Ford. Alors, l'Impérial, design audacieux, les innovations technologiques. Alors, c'était la vitrine technologique de Chrysler. C'était une tentative de Chrysler pour s'imposer dans le segment de luxe américain. Puis même si l'ambition a été contrariée, là, 55, ça marque un moment clé dans la stratégie des Big Three. Puis de fait, l'Impérial, ils l'ont ramené en 1981. Jusqu'en 83, puis c'était une catastrophe. Ils se vantaient d'avoir le système d'injection électronique le plus avancé du monde. Sauf que après n'avoir fait une douzaine de mille en 3 ans, ce qui n'était pas terrible, ils ont tout converti à des modèles à carburation pour éviter les problèmes. Ils avaient même fait une version Frank Sinatra que Lee Iacocca avait remis à Frank Sinatra, le numéro 1, là, personnellement. Puis il est tombé en panne en retournant chez eux. Fait que c'est pas terrible comme... mais la voiture, le modèle qui a marqué 55, c'est la Chevrolet Bel Air. Alors, en 55, Chevrolet propose un modèle totalement redessiné, un style plus moderne, plus bas, plus large et surtout plus élégant. Alors, une carrosserie plus angulaire, plus profilée, des pare-chocs massifs, tu ne peux pas avoir plus massif que ça. Là,
chrome.
Du chrome, oui. Des peintures bicolores très populaires, contrairement à ce que bien du monde pense, ça n'a pas commencé dans les années 80, ça, les chars à deux couleurs. Le tableau de bord modernisé, une instrumentation plus lisible, puis la calandre est inspirée des voitures européennes de luxe. Encore là, tu sais, les soldats américains qui arrivaient de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient pris le goût de voitures avec des calandres plus luxueuses. Puis ce nouveau style-là, il a inauguré la célèbre série des Tri-Five 55, 56, 57. La Chevrolet 57, là, ça, c'est quelque chose...
Je pense que c'est un classique.
Ah ouais.
C'est un classique que tu n'as pas vu dans ta vie. Regarde ça, Chevrolet 57.
On va aller voir ça.
Ouais.
Puis l'innovation la plus importante de 55, on l'a dit tantôt, c'était sous le capot, c'était le V8 Small Block, un moteur qui est devenu légendaire. 265 pouces cubes, 4.3 litres. Aujourd'hui, 162 chevaux. Évidemment, c'est des puissances brutes là, en version de base. 180 avec le carburateur Power Pack. Power Pack, ça, c'était... carburateur 4 barils, tu avais des soupapes d'admission plus grosses, puis tu avais l'échappement double.
C'est ça.
Une architecture compacte et légère, même si quand vous regardez, vous installez à côté d'un Chevrolet Bel Air 55, là, c'est gros en tabarnouche par rapport à un Toyota Corolla d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était compact et léger. Bloc en fond très robuste, le moteur, il était si réussi qui est resté en production sous deux générations, de fait, pendant 42 ans. Ils en ont produit 100 millions, puis on peut encore en acheter un aujourd'hui. Alors,
ben oui.
Si tu ramasses une carcasse de, je sais pas, de Chevrolet Monte Carlo 87 avec un V6 dedans, ben, tu peux mettre un
petit bloc
un
Chevrolet.
Petit bloc dedans, puis ça ouais. va être parfait. Alors, c'était disponible avec une boîte manuelle 3 vitesses, ou encore, si tu avais un handicap physique ou mental, là, il y avait une transmission automatique Power Glide. suspension avant indépendante à ressort hélicoïdaux. Frein à tambour aux quatre roues, rien de moins. Puis ça pesait entre 1500 et 1600 livres.
Qu'un kilo.
Oui, kilo. le Bel Air 55 incarne l'optimisme et la croissance économique de l'après-guerre. Tu ne peux pas avoir la meilleure définition de ça.
Vraiment, c'est l'image.
Ça devient rapidement la voiture familiale par excellence, évidemment en version 4 portes, mais c'est aussi un objet de désir pour les passionnés, encore aujourd'hui. Un Chevrolet Bel Air 55, 56 ou 57, là, ça se vend à des prix de fou. C'est très, très demandé. Alors, ça représente la montée de la classe moyenne, l'essor des grands voyages routiers, parce que concurremment à ça, les Américains développaient leur réseau d'autoroutes. Fait que, tu sais, t'avais pu apprendre des petites routes d'État. Il y avait des autoroutes à la grandeur des États-Unis.
Moi, oui.
Ce que ça se vendait, là, un Chevrolet Bel Air, 1885 US, à peu près l'équivalent canadien. Là,
un coupé.
C'est quasiment au pair. Ouais, un coupé, qui était la version la plus populaire. 2200 pour le cabriolet. Puis 2300 US pour les versions les plus équipées. Puis en dollars d'aujourd'hui, là, c'est entre 20 et 25 000 piastres US. Ça veut dire à peu près 30 à 35 000 piastres canadiens.
Mais tu sais que ça marche encore, hein?
Ah oui.
Arrive avec ça aujourd'hui, un char à 35 000, 30 000 piastres, là. Tout le monde achète ça, là.
Oui, mais tu sais, si on met ça en perspective, un Toyota Corolla 2026 avec un peu d'équipement dedans, c'est 30 000 piastres.
Ouais.
Alors que tu as un voiture, ça, la Chevrolet... Chevrolet Bel Air 55, 56, 57, c'est autrement plus de caractère puis de fun à chauffer ça.
Juste de style, c'est même pas croyable.
Les diverses... cette carrosserie-là, la Bel Air, c'était la plus haut de gamme là, pour 55. Alors, tu avais la série 150, qui était un 6 en ligne. Tu avais le 210, puis la Bel Air. Ça s'est vendu en 55 à 700 000 unités.
Bravo.
qui est incroyable. Tu sais, pour donner une idée, là, en 1990, là, un des chars les plus vendus de GM, là, sans publicité, là, c'était le Cutlass Sierra, 150 000 exemplaires. Fait que là, tu en avais 700 000, là, ce qui est incroyable. Alors, ce que ça a eu comme conséquence, c'est que ça a repositionné Chevrolet comme un leader en innovation. C'est devenu un pilier de la culture hot rod, puis c'est encore aujourd'hui une des voitures anciennes les plus recherchées. Puis, ce qui est bon à savoir, c'est que c'était la première Chevrolet à recevoir un V8 depuis 1918.
C'est ça qui est drôle, hein?
Ouais, 40 ans, là, sans V8, là, les ingénieurs commençaient à désespérer, là.
Pourtant, Ford était là avant, bien avant avec le V8.
Oui, mais c'est des V8 beaucoup plus lourds, là, à l'époque, là. C'est un des moteurs les plus célèbres de tous les temps, là. C'est au niveau des couleurs aussi, le Bel Air 55 proposait des couleurs, des peintures bicolores éclatantes, là, comme Neptune Green, Gypsy Red, Harvest Gold. Alors, ces couleurs vives-là combinées au chrome abondant, ben, ça faisait des autos qu'on voyait de loin. C'est devenu une icône du cinéma et de la culture pop. Alors, le Bel Air 55 apparaît dans des films, des grands classiques comme American Graffiti, Two Lane Blacktop et Back to the Future, où quand il retourne en 1955, il y a un Chevrolet Bel Air Nomade, la version station wagon. Fait que c'est devenu un symbole instantané de la jeunesse américaine. Puis, elle était tellement populaire, comme on le disait tantôt, qu'elle a lancé le surnom Tri-Five. Alors, un trio culte. Et, ben c'est ça. Ça fait le... C'est dans mon livre à moi, là, avoir un budget limité, là, c'est le deuxième char que j'achèterais. Chevrolet, oui, hein? 1957, là, deux portes.
Très belle bagnole. Ouais. Ça serait cool à avoir, vraiment.
Ouais, puis tu mets...
Mais c'est pas croyable, hein? 25 000 US aujourd'hui.
Ouais.
On a perdu ça. Mais je sais pas pourquoi que les grands fabricants ont perdu ça.
Ouais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, t'as les airbags, t'as les systèmes de détection aussi.
Le premier élément de sécurité dans un Chevrolet 55, c'était le tableau de bord.
Ouais.
En métal.
En métal, c'est ça. Les tableaux de bord padés, comme on connaît aujourd'hui, là, c'est Preston Tucker qui avait inventé ça en 1948.
Dans son rêve.
Dans son rêve. Dans les 50 voitures qu'il a construites. Là.
Ouais.
Puis c'était quelque chose. Puis à l'époque, il n'y avait pas... Aujourd'hui, quand un Toyota Corolla rentre dans le derrière d'un pick-up, là, il raccourcit d'un pied et demi. C'est parce que c'est ça qui absorbe l'énergie du choc, plutôt que ce soit la tête du conducteur. Oui. Mais à cette époque-là, où les ceintures de sécurité étaient pratiquement optionnelles, là, c'est le conducteur qui absorbait tout le choc, parce que le char, là, t'avais une scratch sur le bumper. Là.
Moi, les années 50, je retiens de ça. Bon, d'abord, Retour vers le futur, c'est le fun. Mais toutes mes aînés que je suis attentif à eux me parlent de ces années-là comme les années extraordinaires. Moi, ma plus belle décennie, c'est les années 80. Moi, dans mon livre à moi, hier, je regardais Stéphanie puis Mélanie, puis elle me dit ouais, moi, je serais venu au monde en 75 au lieu de 84. Et j'aurais pu vivre ces années-là, les années 80, qui est, selon moi, la plus belle décennie. Là.
Ouais.
Mais moi-même, je suis d'accord avec ça.
Oui, mais les années 50, là, ça a été quelque chose aussi. Tout était beau. Pense au mobilier dans la cuisine. Tu avais une table ronde, souvent turquoise, des chaises avec un look, les frigos. C'était tout était arrondi.
La laveuse puis la sécheuse dans la cuisine.
Oui, ça c'était hot aussi. Tu pouvais faire t'en servir comme table à langer ou comme pour couper les oignons.
Mais tu sais, toutes les décennies ont leur charme. Là.
Oui.
T'sais, mon père, il a grandi. Là. Mon père, il est venu au monde en 37. Ça veut dire... Il a eu 18 ans en 1955. Là, t'sais, ça faisait déjà 4 ans qu'il chauffait.
Ah, c'est une belle âge.
Ouais. Ouais.
Fait que, t'sais, il a vécu... Quand mon grand-père a acheté, à fin 1956, il a acheté un Chevrolet 57, là, t'sais, un 150. Là. Puis mon grand-père, il n'avait pas de permis de conduire, fait qu'il ne pouvait pas le chauffer. Fait que c'est mon père qui lui a appris à chauffer dans le parking au Colisée à l'époque. Puis comme mon père n'avait pas le temps d'y montrer à chauffer, fait que les 18 premiers mois, c'est mon père qui se servait du Chevrolet 57.
Ah ben OK, ben ça, c'est certain. Mais, éventuellement, ton grand-père a eu son permis?
Ah, éventuellement, oui, il a eu
T'avais tes licences, dans ce temps-là, c'était des licences.
Il avait ses licences, effectivement. Puis son Chevrolet 57, c'est le premier char que j'ai chauffé.
Toi aussi?
Oui, j'avais 5 ans.
Tout ce temps?
Oui, il me mettait sur ses genoux, moi je tournais le volant, puis lui s'occupait des pédales. Mais aujourd'hui, c'est impensable. Il y aurait la DPJ qui aurait été appelée là-dedans.
Oh, c'était... Tu sais qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui. Hein? Ouais.
Puis son mécanicien, il ajustait là, le moteur, il ajustait le carburateur
à l'oreille. Au
son, à l'oreille. Oh, ouais. C'est comme ajuster un piano. Là.
Moi, j'ai connu ça parce que dans les années 80, quand j'ai commencé être mécano, on avait des affaires de ces années-là. Puis moi et Pierre Laroche, celui à qui j'ai acheté le garage, ajustait tout à l'oreille. Il vérifiait les circuits électriques, il se mettait un doigt sur la batterie, il se mouillait l'autre doigt, là, il cherchait.
Mais voyons.
Oui, oui, non, non, ça, c'est ces mécanos-là, là, aujourd'hui, là, seraient plus capables de rien faire, premièrement. Mais dans ce temps-là, il était bon, là. Ah. T'avais des espèces d'appareils d'oscilloscope pour analyser là, les problèmes de sa voiture, là. C'était comme incroyable, l'arrivée de ça. Là,
mais le moteur, le V8, là, le small block, là, il a été conçu. Là, ils sont partis d'une feuille de papier jusqu'à un modèle qui fonctionnait en 15 mois seulement. Ça s'est jamais,
pas beaucoup,
ça
là.
S'était jamais fait, puis ça s'est jamais fait dans l'histoire de la mécanique moderne. Là. 15 mois, puis c'est pratiquement... ils ont rajouté des bebelles, comme l'injection électronique là,
ouais.
dessus. Ça fait même, mais tu sais... C'est le même bloc, sauf que les trous sont plus gros dedans, là, mais tu sais, c'est...
C'est ça.
C'est quelqu'un qui a eu cette idée. C'est Ed Cole de chez GM, qui était l'ingénieur en chef, là, qui avait...
Ford qui était en avant dans le V8, eux autres, la technologie, les cams en tête, puis tout ça. Mais encore à ce jour, un L4,
ouais.
avec un petit bloc...
Qui était la deuxième génération.
Ouais. Mais c'est exactement le même principe. Un cam dans le bloc, des pushrods, comme dans le temps. Ça n'a pas changé, puis on fait 700 forces... avec ces voitures-là. C'est quand même fou. Mais c'est fun, 1955. Max Power, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On a fait un beau tour. Mélanie, on fait une pause. Au retour, Renaud Labrecque.
Le show du matin week-end.
Radio X.